Voilà, bonjour pour ce dernier cours sur l'Arche. Mais ce ne sera pas la dernière activité pour cette année. Je vous en dirai des choses à la fin du cours. Et évidemment, on fera d'autres choses l'année prochaine. Donc aujourd'hui, de nouveau, nous aurons 90 minutes, donc une heure et demie, pour que je puisse terminer comment l'Arche arrive à Kiryat Yearim, pour que je puisse aussi vous raconter ce qu'on a découvert sur ce site lors des fouilles de l'année dernière et finalement pourquoi David, selon le récit biblique, aurait transféré l'Arche à Jérusalem. Voilà, c'est le programme pour la prochaine heure et demie. J'espère que vous êtes tous installés, je vois des gens errer. C'est difficile une heure et demie, donc trouver un endroit. Voilà. Bien. Alors donc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu que les Philistins avaient en effet demandé aux spécialistes religieux comment faire pour renvoyer l'Arche. Et les prêtres et devins leur avaient dit que il faudrait faire des représentations des mots avec lesquels le Philistin a été frappé et vous donnerez au Dieu la gloire. Hein? Donc, kavot, donner la gloire au Dieu. C'est presque comme, il parle ici, comme des monothéistes. Et ensuite, on a au verset 6 cet ajout qui fait de nouveau. Vous vous souvenez, de temps à autre, il y a des ajouts qui font une sorte de parallèle entre l'histoire de l'Arche et des Philistins. Donc, pourquoi rendrez-vous votre cœur lourd comme l'Égypte et le Pharaon ont rendu lourd leur cœur ? Donc, ça, vous connaissez cette histoire que lors des plaies, le Pharaon s'obstine et ne veut pas laisser partir les Hébreux. Et on trouve en effet la même racine, donc, qui veut en effet dire être lourd, et qui peut avoir donc deux significations selon, pour les hébraïsons, ça se trouve au piel, ou c'est plutôt rendre lourd dans le sens honoré, ou dans le hifil, où c'est en effet s'obstiner. Ce qui est intéressant ici au verset 6, si on voulait traduire exactement, il faudrait traduire en effet « Pourquoi rendriez-vous la gloire à votre cœur ?» Ce qui est un peu curieux, hein. Donc, du coup, il y a sans doute voulu, ou les Massorètes voulaient sans doute opposer l'alternative, c'est-à-dire les Philistins, au lieu d'honorer le Dieu d'Israël, ne devraient pas honorer leur propre cœur. C'est sans doute cette idée-là qui a amené la même vocalisation au verset 5 et au verset 6. Les chariots, je ne sais pas si vous vous souvenez, les chariots, nous les avons vus lors de notre cours sur les Philistins, donc on les voit très fréquemment en lien avec les Philistins, comme sur ces représentations égyptiennes que vous avez ici. Et l'idée, c'est que les chariots sont donc tirés par des vaches, et nous allons voir, c'est une sorte donc de divination par les vaches. Donc, je vous rappelle qu'en fait, ceux qui avaient en effet proposé la solution, c'est aussi des devins. Donc, les vaches vont en effet être le sujet de la divination. Gressman avait dit le choix des vaches, en fait, peut s'expliquer assez facilement parce que, selon lui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche ? Il y avait un petit taureau représentant Yahvé. Donc il disait, c'est très bien que ça s'est tiré par des vaches, mais comme nous l'avons vu, c'est peut-être un tout petit peu spéculatif. Ce n'est pas sûr que la statue que nous avons à l'intérieur de l'arche est vraiment en forme donc, de taureau. Les vaches, en fait, qui n'ont pas encore porté le joug, ça, c'est en effet quelque chose qu'on retrouve par ailleurs dans les textes bibliques. Nous avons au nombre 19 l'idée de la vache rousse qu'on va mettre à mort, mais là aussi on dira donc qu'elle n'aura pas encore porté le joug pour en effet utiliser leurs cendres dans un rituel de purification, et également Deutéronome 21, où il s'agit en fait d'un, d'un meurtre anonyme dont on ne sait pas l'auteur. Bon, maintenant j'ai un petit souci avec mon ordinateur parce que je n'arrive pas à avancer, donc. Oui, ça se rallume. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on prend les vaches? L'idée, c'est que c'est des vaches qui sont séparées de leurs petits. Donc, c'est des vaches qui allaitent, donc les vaches qui, en fait, ont donc des petits auxquels, évidemment, ils sont attachés. Alors, qu'est-ce qui va se... On sait déjà bien, c'est déjà très bien. Voilà, donc l'idée c'est que le chariot est son conducteur, et donc les vaches qui normalement devraient plutôt tendance à revenir vers leurs petits, hein, donc l'idée évidemment c'est si malgré tout ils vont dans une autre direction, hein, c'est en effet que c'est une volonté divine qui se trouve derrière. Pour les hébraïsants, je vous dis encore, il y a quelque chose d'un peu curieux, c'est que les vaches trouvent au verset 7, au verset 12, des attributs masculins dans les formes verbales ou dans les suffixes, ce qui est très curieux. Alors, on peut expliquer cela peut-être par un souci des massorètes. Le souci, il vient d'où ? Il vient du fait, en fait, que selon le Lévitique, on ne peut sacrifier des animaux mâles. Et là, on a des vaches. Donc, du coup, ils ont essayé de résoudre le problème comme ils pouvaient en mettant aux vaches quelques suffixes masculins. Ça, c'est peut-être une explication, si on ne veut pas dire qu'il s'agit simplement d'une erreur, mais qui revient deux fois, donc c'est quand même un tout petit peu bizarre. Donc, les objets des Philistins doivent être mis dans un argas. Un argas, on ne sait pas très bien ce que c'est un hapax, donc le mot n'est utilisé qu'ici. Hein. C'est un récipient. Un récipient sous quelle forme, c'est très difficile. Parfois, on pense qu'on peut le mettre en rapport avec un terme arabe qui désigne sorte de sacoche dans laquelle on met des pierres pour tenir une tente et qu'on faisait porter par des chameaux. C'est sans doute un récipient dans lequel on mettait des offrandes pour l'arche. Parce que si, en effet, l'arche, comme nous l'avons dit, est une manière de représenter la présence de Yahvé, il est normal aussi qu'il faut qu'elle soit équipée en fait pour recevoir des offrandes pour Yahvé. On peut en effet faire allusion à ce texte du livre de Josué où en effet lors d'un vol, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Akan en Josué 7 va voler le butin. Et apparemment, ce butin, comme on peut le lire ici, était d'abord porté devant l'arche, ou posé devant l'arche. Et après, évidemment, ça va être restitué. Donc, on peut en effet imaginer que quelque chose de comparable est ici, dans la tête des auteurs. Donc, à la fin, on dit encore une fois, vous verrez, si elle monte sur le chemin de son territoire en direction de Beth-Shemesh. C'est lui, donc, Yahvé, ou l'Arche, qui nous a fait tout ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés et que c'est par hasard. Donc, soit l'un ou l'autre, donc, on voit le caractère divinatoire. Donc, l'Arche va arriver à Beth-Shemesh, ce qui est une faute. Une mention logique, parce que Beth-Shemesh, j'y viendrai tout de suite, c'est la ville frontière jouxtant le territoire philistin d'Écron. L'arche arrive donc maintenant à Beth-Shemesh. Je vous lis les versets 10 à 18. Les hommes firent ainsi, ils prirent deux vaches qui allaitaient les attelèrent à leur chariot. Quant aux petits, ils les avaient retenus à la maison. Ils placèrent l'arche de Yahvé, ou l'arche tout seul, sur le chariot, ainsi que le récipient et les rats en or, et les représentations des hémorroïdes sont peut-être un ajout. Les vaches allèrent tout droit sur le chemin en direction de Beth-Shemesh. Sur un seul sentier, elles allèrent en meuglant, elles ne s'écartaient ni à droite ni à gauche, les gouverneurs des Philistins les suivant jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Et ceux de Beth-Shemesh étaient en train de moissonner les blés dans la vallée, ils levèrent les yeux et virent l'arche, et ils se réjouirent de la voir. Quant au chariot, il était arrivé au champ de Josué, un habitant de Beth-Shemesh, et il s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre, ils fendirent le bois du chariot. Quant aux vaches, ils les faisaient monter en holocauste pour Yahvé. Quant aux Lévites, ça c'est curieux, tout d'un coup il y a des Lévites. On n'a jamais entendu parler avant, mais enfin. Quant aux Lévites, ils avaient descendu l'arche de Yahvé et le récipient qui se trouvait près d'elle et qui contenait les objets d'or. Ils la placèrent sur la grande pierre et les hommes de Beth-Shemesh faisaient monter des holocaustes. Ils immolèrent des sacrifices en ce jour pour Yahvé. Quant aux cinq gouverneurs des Philistins, ils avaient regardé et retournèrent à Écron ces mêmes jours. Et celles-ci sont les hémorroïdes d'or, c'est curieux, que les Philistins retournèrent comme offrande d'expiation pour Yahvé, pour Ashdod une, pour Gaza une, pour Ashkelon une, pour Gath une et pour Écron une. Donc cinq. Et les rats d'or, selon le nombre de toutes les villes des Philistins qui étaient aux cinq gouverneurs, de la ville fortifiée jusqu'au village sans muraille. Et là, il y a des différences de nouveau à traduire, pour traduire, mais je pense qu'il faut traduire « et la grande pierre sur laquelle on avait établi l'arche de Yahvé et témoin », donc « témoin et la grande pierre sur laquelle on avait établi l'arche de Yahvé jusqu'à ce jour dans le champ de Josué, habitant de Beth-Shemesh. » Alors Beth-Shemesh, donc, je vous ai dit, c'est logique que ils veulent envoyer l'arche à Beth-Shemesh. Voyez que c'est pas très loin de Écron. Et Beth-Shemesh donc se trouve dans la vallée d'une petite fleuve qui se jette dans la mer, donc entre Tel Aviv et Ashdod. C'est une ville assez stratégique dans les montagnes. Son nom signifie la maison de Shamash. Shamash, dieu solaire. D'autres noms, peut-être pour la même ville, c'est Ein Shemesh. D'ailleurs, il y a encore un village arabe qui s'appelle ainsi, qui veut dire la source de Shamash. Mais donc, apparemment, un lieu qui, à l'origine, est dédié, en fait, au dieu solaire Shamash ou Shamshou à Ougarit. Donc, cette ville, elle est occupée déjà dès la fin du 3e millénaire avant notre ère. Donc, ça, c'est la ville moderne. Qui se développe de manière assez importante. Et là, vous avez en fait le tel du Beth-Shemesh ancien. Si vous allez en train de Tel Aviv à Jérusalem, vous allez vous arrêter à Beth-Shemesh. Donc, cette ville a été détruite à la fin du 13e siècle, et on pense souvent que de nouveau c'est en lien avec l'occupation philistine dans la suite. Il y a de nouvelles phases de destruction par les Israélites, c'est possible, parce qu'après on trouve en fait dans les fortifications des murs à casemates, donc des doubles murs, comme on les trouve aussi à Hatzor et à Gezer. Et ce qui est surtout intéressant pour cette ville, alors je ne sais pas si ça a à voir avec notre histoire, c'est qu'on a surtout trouvé dans cette ville une sorte de nécropole. Une grande nécropole entre le 8e et 6e siècle, donc toute une série de tombeaux à bancs où on mettait en fait les défunts et quand ils étaient décompensés, on rangeait les os puis on mettait quelqu'un d'autre, ce qui vous explique l'explication, ou disons le terme biblique ou l'expression biblique, être rassemblé à ses pères. C'est tout à fait concret. On vous rassemble à vos pères, donc on vous met vraiment avec eux. Donc, puis parfois, les os peuvent même se mélanger. Alors, est-ce que le fait que voilà, des gens vont mourir ici à Beth-Shemesh, est-ce que ça a à voir avec la connaissance de cette nécropole? Difficile à savoir, mais c'est en effet, on cherche encore l'explication pour le fait que ça a été installé ici. On a trouvé aussi à Beth-Shemesh une empreinte d'un sceau qui mentionne un dénommé Eliakim, qui est le serviteur de Yehoiakim ou Yoyakim, qui est l'avant-dernier roi de Juda, donc qui en fait soumet ou rend la ville en 597. Et ce qui est très très intéressant, vous allez le voir, c'est que ce même nom va apparaître dans notre texte au moment où les choses vont mal se passer, si on prend en fait le texte de la Septante. C'est une ville qui apparemment a été disputée entre Juda et les Philistins. Dans certains textes, elle est revendiquée comme étant une ville de Juda, en Josué 21 même comme une ville des Lévites. Alors peut-être ça explique aussi pourquoi on parle des Lévites tout un coup. Après, dans le livre des Chroniques, on dit que les Philistins, de nouveau, avaient annexé Beth-Shemesh. Donc apparemment, c'est une ville, comme souvent les villes frontières ou les territoires frontières qui passent facilement d'un côté et de l'autre. Donc c'est une ville disputée. Alors ce que l'auteur de 1 Samuel 6 veut dire, c'est que Beth-Shemesh appartient en effet au territoire d'Israël, parce que les gouverneurs des Philistins n'y mettent pas les pieds. Ils s'arrêtent à la frontière, donc ils n'y entrent pas. Mais en même temps, on va montrer en fait que ce n'est pas un lieu adéquat pour l'arche. Parce que l'arche doit continuer jusqu'à Kiryat Yearim. Donc, le meuglement des vaches, on a déjà parlé, c'est que ils vont, malgré leur désir de retourner vers le petit, tout droit vers Beth-Shemesh, et donc la divination a trouvé en effet sa réponse. C'est bien Yahvé qui agit via l'arche. Pour les rabbins, les vaches n'ont pas meuglé, ils ont chanté des louanges, le cantique de Moïse, disent-ils. Ça, c'est possible quand on vocalise un peu autrement la racine. Mais bon, peu importe. Donc maintenant, l'arche va en effet arriver donc chez les habitants de Beth-Shemesh, comme l'a représenté aussi Gustave Doré. Maintenant, donc la perspective va changer. Donc le narrateur va nous expliquer ce qui se passe du côté des habitants de Beth-Shemesh qui sont en train de moissonner. Donc on est mai-juin, dans une période donc plutôt agréable, et la réaction que va provoquer l'arche, elle est mêlée de joie et de crainte. Donc l'arche va s'arrêter au champ de Josué. Alors c'est évidemment pas le Josué de l'histoire de la conquête, on ne sait pas en effet qui c'est. On peut aussi se poser la question, est-ce que le nom a été simplement inventé à cause de la signification théologique de la racine, donc Yasha sauvé, Yahvé sauve, donc dans le chant qui dit que Yahvé sauve. Et le fait que la tradition n'est pas très stable se montre aussi dans la différence qui existe entre le texte hébreu et le texte grec, parce que dans la Septante, selon le Codex Vaticanus, en fait, le nom, ce n'est pas Josué, c'est Osée. Et Osée, c'est le prophète, mais c'est aussi le dernier roi du royaume d'Israël. Gardez ça en tête, c'est intéressant. Donc il y a une certaine fluctuation dans la traduction. Sur son terrain, il va y avoir une pierre sacrée, qui sert d'abord d'autel et ensuite d'emplacement provisoire de l'arche. Donc je vous ai déjà parlé du sacrifice des vaches qui contredit ce qu'on dit dans Lévitique, ce qui peut montrer que le texte est probablement plus ancien que le Lévitique. Et le fait qu'on utilise donc les pauvres vaches, une fois qu'elles ont amené l'arche à Beth-Shemesh, on va les sacrifier ensemble avec le chariot, hein, quelque chose qu'on trouve aussi dans l'histoire de 2 Samuel 24, où en effet David va tomber sur une aire d'un dénommé Arona, dont il va en effet acheter le terrain pour y faire l'emplacement du futur temple. Et là, c'est la même chose. Donc les bœufs, là, c'est les bœufs qui vont fournir l'holocauste et les traîneaux et l'attelage, le bois pour l'holocauste. Donc comme en 2 Samuel 24, on a la fondation d'un lieu de culte, on peut aussi se poser la question si en 1 Samuel 6, et peut-être aussi une sorte de récit étiologique qui transforme peut-être un sanctuaire dédié à Shamash, Beth-Shemesh, hein, à un sanctuaire yaviste. Donc toute cette partie va se conclure dans la deuxième partie du verset 18, « Témoin et la grande pierre ». Jusqu'à ces jours. Donc c'est typiquement un récit d'étiologie, comme vous l'avez aussi à Bethel, etc. C'est pour cela qu'on appelle ce dieu Bethel. Donc ça veut dire que si le verset 18 suit directement le verset 14, ben, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Que le verset 15 et 18 sont des ajouts de toutes sortes, des ajouts divers, qui ont en fait trois thèmes que très très brièvement je vous présente. Le premier ajout en rouge a à voir avec les Lévites et les sacrifices. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas du tout parlé des Lévites. Donc là, c'est un auteur qui a dit, mais en fait, on ne peut pas manipuler l'arche sans avoir les spécialistes, et que dans le Deutéronome, dans les chroniques, il y a les Lévites qui sont tout le temps en train de porter l'arche, ben, il faut les ajouter ici. On ne peut pas se contenter non plus d'un seul sacrifice, donc il faut en mettre plusieurs, comme c'est le cas ici, des holocaustes et d'autres tsevachim. Premier ajout. Deuxième ajout, c'est de faire des trois villes des Philistins dont on avait parlé cinq, c'est-à-dire de mentionner aussi les autres qui ne jouent pas de rôle dans le récit. Donc on veut en effet impliquer l'ensemble des Philistins avec cette idée d'une pentapole, d'une sorte de fédération de cinq villes dont nous avons parlé la semaine dernière. Et finalement, une sorte de distinction qui en fait n'a jamais été faite entre les représentations des rats, au nom de cinq, et des représentations des Amorites qui sont au nom de cinq, et les représentations des rats qui semblent, selon ce verset, en fait dépasser ce nombre-là, parce que pour n'importe quel petit village, il faut encore faire des représentations. Donc là, on va en fait que ce sont des ajouts tardifs qui ne font pas du tout avancer l'histoire. Ils veulent amplifier là peut-être la défaite des Philistins, mais c'est typique pour des récits bibliques. Ils engendrent constamment des commentaires. Le récit engendre son commentaire, mais vous pouvez très bien vous en passer pour le fil narratif. Et maintenant, on va expliquer pourquoi l'arche ne peut pas rester à Beth-Shemesh. Et ça vient de manière assez abrupte. Je vous traduis. Il, alors qui ? Ça peut être Yahvé, l'arche. Il frappa parmi les hommes de Beth-Shemesh. En effet, ils avaient regardé l'arche de Yahvé. Ça, c'est le texte hébreu. La Septante et les fils de Yekonios, donc Yoyakin, ne se réjouirent pas lorsqu'ils virent. Donc là, il y a Yehoiakim qui n'est pas mentionné dans le texte hébreu. Il frappa parmi les peuples 70 hommes. c'est déjà pas mal. Et après, 50 000 hommes. De nouveau, vous avez typiquement l'œuvre d'un glossateur. Les hommes de Bet-Shemesh dirent qui pourrait se tenir devant Yahvé, ce Dieu saint, et vers qui il, ou elle, Yahvé ou l'Arche, montera d'auprès de nous. Ils envoyèrent des messagers vers les habitants de Kiryat Yearim en disant « Les Philistins ont retourné l'Arche de Yahvé. Descendez, faites-la monter vers vous. » Et les hommes de Kiryat Yearim vinrent et firent monter l'Arche de Yahvé. Ils l'apportèrent dans la maison d'Avinadav, sur la colline, et ils avaient, sous-entendu déjà, consacré son fils Éléazar pour garder l'Arche de Yahvé. Donc, voilà le périple de l'Arche. En passant par Gath, Ekron, Bet-Shemesh, il va arriver à Kiryat Yearim. Donc, nous avons là une césure, un nouveau fléau frappe les habitants de Bet-Shemesh et provoque donc l'arrivée de l'Arche à sa destination. Pas finale dans le récit biblique, mais finale dans ce récit de l'Arche. Comme je vous ai dit, il y a deux raisons qui sont données pour expliquer le fléau qui n'est pas précisé. Est-ce que c'était le même fléau qu'avaient frappé les Philistins ? Est-ce que c'était autre chose ? Ce n'est pas précisé. Pour le texte massorétique, c'est quoi la grande faute ? Ils ont regardé à l'intérieur de l'Arche. Voilà. Alors donc, ils ont dû voir quelque chose qu'on n'a pas le droit de voir. Et pour... Ça, c'est aussi l'idée du Targum qui dit « parce qu'ils avaient pris plaisir à regarder dans l'Arche de Yahvé quand elle a été ouverte ou découverte. » Alors que dans la Septante, c'est les fils d'un dénommé Yekonios, donc Yoyakin, qui ne se réjouirent pas parmi les hommes de Bet-Shemesh de ce qu'ils avaient vu, le coffre du Seigneur. Alors c'est peut-être aussi la même idée, mais on met là ce nom de Yoyakin, qui rappelle en effet le dernier roi, l'avant-dernier roi de Juda. Et c'est quand même très curieux parce qu'au verset 14, nous avons vu en fait que dans la Septante, il est déjà question de Osée. Donc comme si on peut avoir l'impression qu'on voulait mettre l'histoire de l'Arche à Bet-Shemesh, enfin avec les royaumes d'Israël et de Juda. Est-ce que dans la Septante, c'est quelqu'un qui évidemment connaît la disparition d'Israël de Juda, est-ce qu'il veut y faire allusion en lisant l'histoire de l'Arche aussi comme une sorte d'histoire de l'exil. Donc, comme je vous ai dit, la nature du flot ne pas préciser. 70 hommes, 70 hommes, vous savez, on en a beaucoup, les 70 anciens, 70 fils de El, 70 fils du roi, donc c'est évidemment une chiffre ronde qui, après, évidemment, se retrouve dans l'institution du Sanhédrin, qui est aussi composé de 70 personnes. Donc les 50 000 sont évidemment un ajout d'un glossateur. Donc, pourquoi ce coup est arrivé ? Cette coup est arrivé parce que n'importe qui ne peut pas se tenir devant l'Arche de Yahvé. Donc se tenir devant, ça peut en effet avoir une signification d'abord tout basique, supporter d'être en présence d'eux, mais aussi être au service de quelqu'un. Qui peut être au service de l'Arche ? Et c'est justement cette expression qui est utilisée quand on parle des Lévites dans le livre du Deutéronome. L'insistance sur le fait que Yahvé est appelé ici saint, kadosh, comme aussi dans la vision d'Ésaïe, kadosh, 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 Adonai, montre en effet que pour gérer l'arche et la sainteté de Yahvé, il faut un personnel adéquat. Donc c'est aussi en fait une sorte d'explication. Donc vous vous souvenez, l'arche, quand elle était à Shiloh, à Silo, il y avait Élie et ses fils. À Beth-Shemesh, apparemment, il n'y a pas de personnel de culte ou de prêtre. Donc, c'est pour cela, en effet, il faut amener l'arche à la colline de Kiryat Yéharim. Donc, le mot colline, Givéa, ça peut être parfois aussi le nom de ville, hein, des villes qui sont justement sur des collines, mais ici, il est évident que c'est la colline d'une ville qui s'appelle Kiryat Yéharim. J'y reviens dans un moment. Donc, sans doute, le lieu cultuel sur la hauteur de la ville. Donc, 1 Samuel 7 conclut l'histoire de l'Arche en montrant comment Kiryat Yéharim devient son nouveau sanctuaire. Puisque Yahvé est saint, Kadosh, il faut sanctifier, et c'est exactement la même racine que nous avons quand on dit qu'on a sanctifié le fils d'Avinadav Eliasa, Kidesh. Donc pour le Yahvé saint, il faut quelqu'un qui soit sanctifié, à savoir Eléazar, le fils d'Avinadav. Alors, est-ce seulement par hasard ou non que ce nom, Eléazar, est aussi le nom d'un fils et d'une certaine manière de successeur de Aaron, Aaron le frère de Moïse, premier des prêtres. Donc, la garde de l'arche échoua maintenant à une nouvelle famille sacerdotale, à Kiryat Yéharim. Voilà. Mais c'est pas encore fini. D'abord, il faut nous intéresser un peu à Kiryat Yéharim. C'est un endroit assez intéressant. Et ça pourrait avoir été, sur le plan historique, en effet, un sanctuaire concurrent de celui de Jérusalem. Vous savez, la Bible, elle est très sélective. Et parfois, on découvre, sur le plan archéologique, des sites qui ne sont pas ou peu mentionnés dans la Bible. Nous avons à 7-8 km au sud de Jérusalem un site qui s'appelle Ramat Rachel, qui est fouillé surtout par Odette Lipschitz. Grand centre administratif depuis l'époque perse jusqu'à... Pardon, depuis l'époque assyrienne jusqu'à l'époque perse. Et la Bible n'en parle pas. Probablement pour ne pas mettre de l'ombre sur Jérusalem. Peut-être ici, c'est quelque chose de similaire. Alors, Kiryat Yéharim, la ville des forêts, qui aujourd'hui en arabe s'appelle Der Elazar. Et Elazar, ben, ça rappelle quand même un peu Eléazar, non ? Qui était le prêtre en service. Donc peut-être le nom arabe, évidemment qu'on traduit autrement, mais peut-être le nom arabe, il a peut-être gardé quand même encore le souvenir de ce Eléazar. C'est à proximité immédiate de Abu Ghosh, connu surtout pour ce restaurant de houmous aujourd'hui, mais qui appartenait bon, à des clans palestiniens, Abu Ghosh, donc, un des, selon on lit l'histoire, certains disent un bandit, d'autres disent un grand notable, peu importe. Il avait un autre nom arabe, Kiryat al-Inab, donc la ville des raisins. Et là, dans ce nom-là, on vous conserve le Kiryat, dans le Kiryat. Donc là, vous avez le Kiryat, et là, vous avez Eléazar, d'une certaine manière. Bon, alors, l'identification de cette colline est assez claire sur le plan donc, géographique. On peut aussi dire que ça confirme ce qui est dit dont Josué ou Kiryat Yearim est en effet situé entre Beth-Horon ici et Kesla ou Chesalon dans le sud. Donc ça correspond également et aussi dans chez le père d'église Eusèbe qui a fait toute une onomastique des lieux de la Terre Sainte où on dit que c'est une route qui n'est pas trop loin de Diaspolis, donc Lod, vers Aliyah, c'est-à-dire Jérusalem. L'identification donc pose pas de problème. Parce que vous savez, à certains lieux, on n'est pas tout à fait sûr. Là, on peut être assez sûr. Le site aujourd'hui abrite une église, l'église de Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance, et qui, en fait, héberge aussi un couvent des sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Donc l'histoire de cette église, elle se lit aussi un peu comme un roman. Je ne peux pas vous donner tout le roman, mais juste quelques éléments. Elle est l'œuvre d'une dame qui vient des Pyrénées, Marie-Jeanne Rumeb, devenue sœur Joséphine. Et c'est sœur Joséphine, donc, elle séjourne en Palestine et va jouer un rôle important lors de la construction de cette basilique. Puisque ça commence en fait avec le fait qu'ils sont toujours là aujourd'hui, les bénédictins en 1999 reçoivent en fait la permission de s'installer à côté d'une église des croisés. Si vous allez une fois en Israël, donc vous allez à Abu Ghosh, il y a une magnifique église des croisés où maintenant se trouve le couvent donc des bénédictins. La mère supérieure de Saint Joseph de la Sainte Apparition, qui apparemment ont des liens privilégiés avec les bénédictins, le monde des couvents et des ordres est complexe, donc elle va rendre visite donc, aux bénédictins, elle va découvrir ce lieu de Kiryat Yearim qui surplombe le site, et elle va charger sœur Joséphine de acheter le terrain sur la colline. Elle était aussi en rapport, et ça c'est intéressant, avec le père Lagrange de l'école biblique de Jérusalem qui avait déjà eu l'impression qu'il y a peut-être des choses. Elle n'avait pas encore fait des fouilles systématiques. Mais du coup aussi, le consul allemand avait eu vent de l'histoire. Ça fait monter les prix, évidemment. Et donc, elle était censée l'acheter pour 5 000 francs, et je crois qu'elle a dû dépenser plus que 20 000 francs. Ce qui a provoqué quelques mécontentements de la mère supérieure. Mais voilà comment en fait se présentait le site donc, de Kiryat Yearim, évidemment sans l'église, en 1904, à peu près à l'époque où ces événements se présentent. Alors, après, c'est comme à Qumran, c'est toujours pareil. On dirait que c'est presque un motif littéraire, mais en même temps, apparemment, ça correspond à une réalité. C'est de nouveau un paysan qui va s'occuper des oliviers et dont la charrue va heurter un mosaïque, justement sur le site de Kiryat Yearim. Malheureusement, cette partie du terrain n'a pas été achetée par sœur Joséphine, qui du coup, de nouveau, va dépenser pas mal d'argent. Après, elle va dire que c'est un miracle. Donc, c'est un miracle pour qu'elle a réussi à obtenir tout cet argent, toujours avec un certain mécontentement de la mère supérieure. Mais donc, du coup, le père Lagrange de l'école biblique de Jérusalem va entreprendre des fouilles et il va en effet découvrir les restes d'une église byzantine, hein, détruite d'abord par les Sassanides et encore une fois reconstruite et détruite. Mais dont vous pouvez encore voir les mosaïques aujourd'hui. Donc si vous allez à Kiryat Yearim, à l'intérieur de l'église, on a laissé, donc l'église, bon, on peut discuter de l'architecture, mais à l'intérieur, ils ont quand même fait un bon choix en laissant les mosaïques visibles. Et donc évidemment, on peut aussi se poser la question sur quoi l'ancienne église byzantine a été construite. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a construite là-bas. Donc peut-être sur un ancien sanctuaire. Donc lors de la Première Guerre mondiale, Vous savez, les citoyens français ont dû quitter la Palestine. Ensuite, sœur Joséphine revient et donc la basilique est finalement inaugurée en 1924. Il s'appelle l'église de l'Arche de Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Donc, c'est-à-dire, c'est un lien dans le catholicisme entre l'Arche de l'Alliance et la Vierge Marie. Vous voyez pourquoi ? Ouais. Ça va avec beaucoup de choses, mais comme l'Arche a été dépositaire, d'une certaine manière, de la présence divine, des tables, de la loi de la Première Alliance, Marie, d'une certaine manière, porte Jésus, présence divine incarnée et également médiateur de la nouvelle alliance. Donc, ce qui fait que vous avez ce lien qui, en fait, après, se fait avec toutes sortes d'exégèses un peu allégoriques, qu'on peut dire, parce que tout à l'heure, on va voir que David, il danse devant l'arche. Et vous connaissez peut-être l'histoire dans l'évangile de Luc, lorsque Marie va visiter Élisabeth. L'enfant d'Élisabeth, c'est-à-dire le futur Jean, va danser dans le ventre de sa mère. Donc on fait des rapprochements plus ou moins réussis. Mais ça explique l'importance de ces églises dédiées à Notre-Dame d'Alliance. Et un auditeur a très gentiment me donné ce vitrail d'une église que certains peut-être connaissent, au 15e arrondissement, qui s'appelle aussi donc Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Et vous voyez David danser devant l'Arche. Bon, revenons à des choses un peu plus bibliques. Et donc, juste pour vous dire que le nom de Kiryat Yearim, en hébreu, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais il n'est pas toujours écrit exactement de la même manière. Parfois, c'est avec l'article. Parfois, il y a peut-être un problème parce que Kiryat Arim, c'est la ville des villes, ça ne va pas très bien. Parfois, on a Kiryat tout seul ou Givat Kiryat. Ba'ala, là-dessus, il faut revenir. Ba'ala, donc Ba'al ou Kiryat Ba'al. On a encore aussi les champs de Yahar, donc on a Yoharim, des forêts, dans un psaume. Et puis, ce qui complique encore évidemment les choses, c'est que les textes grecs ont souvent des noms encore un peu plus différents. Donc, ce sera typiquement un sujet de thèse. Il faut expliquer ces différents noms. Certainement dire aussi que c'est des thèses dont personne n'a besoin, mais ce serait quand même intéressant de savoir un tout petit peu comment expliquer les différences. Je pense qu'on a peut-être quand même besoin. Alors, dans la Bible, cette ville apparaît dans beaucoup de contextes. Je vais vous les énumérer, mais un peu plus rapidement. D'abord, ça c'est intéressant, en Josué 15, vous avez une liste des villes du nord de Juda, où Kiryat Yearim apparaît. Ensuite, vous avez en Josué 18 deux éléments différents. Vous avez une liste des frontières entre Juda et Benjamin et Kiryat Baral, identifié à Kiryat Yearim, est en effet situé ici, sur la frontière entre Juda et Benjamin. Après, dans une autre liste du même chapitre, Kiryat Yearim, par contre, est identifié comme une ville faisant partie de la Nahala, du patrimoine benjaminite. Donc il y a apparemment des hésitations si Kiryat Yearim fait partie de Benjamin et de Juda. Après, la ville apparaît dans des textes Néhémie et Esdras qui contiennent une liste des revenus de l'exil, des gens qui étaient déportés à Babylone et qui reviennent. Et on va le mentionner ensemble avec Kephira et Bethoron. Donc trois endroits qui sont assez proches. On va dire qu'il y a 743 personnes qui sont revenus s'installer dans ces trois villes. Et donc ça montre en effet l'importance de Kiryat Yearim à l'époque perse et hellénistique. Je ne vais pas vous donner tout, parce que je vais le mettre sur le site, mais je vais vous parler d'un texte narratif qui peut être intéressant, c'est en Jérémie 26. En Jérémie 26, nous avons un prophète qui est originaire de Kiryat Yearim. Il y eut un autre homme qui prophétisait au nom de Yahvé, Uriahu, fils de Shemaïahu, de Kiryat Yearim. Il proféra contre cette ville et contre ce pays des oracles semblables à ceux de Jérémie. Ça, c'est très intéressant. Ça se trouve, en fait, au chapitre 26. Et le chapitre 26 raconte encore une fois comment Jérémie a annoncé la destruction du temple et a eu un certain nombre quand même de problèmes avec surtout les prêtres. Et on va dire, mais il y a un autre de Kiryat Yearim qui a dit exactement la même chose, mais qui finit moins bien que Jérémie. Donc il est rattrapé, il veut s'enfuir en Égypte, il est rattrapé et Yoyakin le fait exécuter. Pourquoi c'est intéressant pour notre sujet ? C'est que la mention de Kiryat Yearim montre que c'est quand même une ville qui a une certaine activité cultuelle, parce que les prophètes, souvent, sont quand même rattachés à des sanctuaires. Ils sont rattachés à des sanctuaires, ce n'est pas des prophètes... Bon, quand c'est exceptionnel, on le dit comme Amos qui dit « Voilà, j'étais à Bouvier, puis Yahvé m'a forcé de prophétiser. » Mais très souvent, en effet, les prophètes sont en lien avec un sanctuaire. Donc s'il est de Kiryat Yearim, on peut se poser la question s'il n'y avait pas un sanctuaire à Kiryat Yearim. Et le fait qu'il soit venu de Kiryat Yearim à Jérusalem, bon, maintenant c'est la grande spéculation, mais qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ça pourrait signifier justement qu'à l'époque de Josias, on a transféré l'arche de Kiryat Yearim à Jérusalem. Et donc, du coup, les prophètes de Kiryat Yearim, ils ont migré avec et sont arrivés à Jérusalem. Et le lien avec l'arche est encore souligné dans ces chapitres, puisque lors du discours sur la destruction du temple, qui est le même, dit-on, de Jérémie et de Uriahu, cette destruction est en effet comparée, la destruction de Jérusalem, à celle de la destruction de Shiloh. Donc ça veut dire qu'à l'époque où on a composé ce texte, Kiryat Yearim était une ville connue, habitée, importante. Donc si on résume les données bibliques, on peut dire que Kiryat Yearim est une ville frontière entre Juda et Benjamin. Dans les textes plus anciens, c'est probablement Benjamin. Ensuite, elle passe à Juda. Et les textes qui mentionnent cette ville peuvent être datés, grosso modo, entre le 8e et le 4e, 3e siècle avant notre ère. Et encore quelques remarques sur le lien entre Kiryat Yearim et Kiryat Baal ou Baala, parce que il y a des textes qui identifient Kiryat Yearim et Baala, ou Kiryat Baal. Donc, du coup, on a l'idée que Kiryat Baal, la ville de Baal, est le nom le plus ancien qui ensuite a posé des problèmes théologiques à cause du nom Baal, et qu'on aura donc du coup remplacé par Kiryat Yearim, qui est plus neutre. La théorie opposée veut que Kiryat Baal soit un nom polémique pour Kiryat Yearim. Donc on aurait en fait appelé Kiryat Yearim de manière négative Kiryat Baal. Des telles choses existent dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Osée, il appelle le lieu de Bethel, où il y a le sanctuaire, il appelle Beth Aven. maison de malheur, maison de tous les maux. Donc ce n'est pas impossible, mais contrairement à Osée, ici, dans ces textes, il n'y a pas vraiment de visée négative qui est perceptible. Donc je pense que ce n'est pas une bonne théorie. Ce qui est également, à mon avis, à rejeter, c'est le fait que ce soit deux localités différentes, parce que là aussi, on n'a pas vraiment d'indication. On peut mentionner, par contre, qu'un même lieu peut avoir des noms différents. Bethel, Luz, Baal Peor, Beth Peor, Hebron, Kiryat Arba, etc. Donc, Kiryat Baal, peut-être, est soit le même nom, ou le nom d'une partie de Kiryat Yerim, rappelant peut-être une allusion à un sanctuaire de Baal. Mais la question qui reste aussi ouverte, qui est ce Baal ? Parce que Baal, ça pourrait être aussi un titre pour Yahvé. Baal, comme vous le savez, Baal, c'est simplement le Seigneur. Donc, je pense la solution la plus simple, c'est de comprendre Kiryat Baal ou Givat Yerim comme une allusion à la colline. Et on voit que, par exemple, en 1 Chronique 13, David monte à Baala. Donc on monte à Baala. En Josué 18, on a la colline de Kiryat. Et donc il faut en effet imaginer probablement cette alternance avec l'idée que Kiryat Baal ou Baala, c'est en fait ça, la colline de Kiryat Yerim. Et Kiryat Yerim, en fait, est l'ensemble du site. Donc Kiryat Baal ou Givat Yerim est le sommet. Et dans le sommet, évidemment, souvent, il y a des sanctuaires et autre chose. Donc, tester un peu tout ça, il y a eu des fouilles donc, qui ont été faites l'année dernière en collaboration avec l'Université Tel Aviv et le Collège de France. Auparavant, il y avait très peu de fouilles parce que, ben, à la fois, c'est un terrain occupé par des sœurs sous protectorat français, donc situation assez compliquée. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Il y a eu des sondages, on a ramassé un peu la poterie pour voir ce qu'il y a. Et puis, il y a eu une fouille préventive, une fouille de sauvetage, lorsque les sœurs ont agrandi en fait leur couvent. Ça, c'est obligatoire en Israël. Et donc, on a fait des fouilles de sauvetage. Et puis, ce que tous les fouilles ou tous les sondages, en fait, bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais ce que tout le monde, en fait, peut voir, c'est que c'est un lieu très important au premier millénaire, donc à l'époque des récits bibliques. Maintenant, ce qui est intéressant, si vous prenez la vue aérienne, donc si vous survolez Kiryat Yerim avec des drones ou autres moyens, vous voyez que c'est une sorte de plateforme qui pourrait être en effet une construction humaine. Donc il n'y a pas une plateforme naturelle, plutôt une plateforme humaine qui évoque d'ailleurs quelques sites, j'y reviendrai, du royaume du Nord. Donc l'idée, c'était de voir si là où il y a l'église, où il y avait l'église byzantine, s'il y avait déjà une sorte d'enceinte administrative ou religieux qui a en effet ensuite inspiré des générations suivantes de s'y installer. Bon, c'est comme avec l'esplanade du temple, on ne pouvait pas creuser sous l'église. Je pense que les sœurs ne l'auraient pas permis, on n'a pas osé même demander. Donc on a creusé autour, donc avec trois areas, ici au nord et au sud, donc pour tester un peu l'idée d'un mur qui pourrait entourer l'enceinte, et ici l'area C, plutôt un peu à l'extérieur, pour voir si on peut avoir une sorte de stratigraphie, les couches. Les couches, c'est important pour les textes, mais c'est aussi important pour l'archéologue. Donc, comme je vous ai dit, on a trouvé beaucoup de poteries in situ et hors situ. Et la poterie, évidemment, est importante parce que ça permet déjà un tout petit peu à dater les phases d'occupation. Et donc, la plupart des poteries viennent du 8e au 6e siècle, à peu près. Donc, on est vraiment à l'époque de l'histoire de la monarchie. On a trouvé des petites choses, comme cette empreinte qui est typique pour les rois judéennes, et d'autres figurines, comme par exemple ce cavalier qui date plutôt du 6e, 5e siècle. Mais la découverte la plus importante, c'était celle d'un grand mur d'une largeur quand même de 3 mètres et qui, à certains endroits, en effet, est construit directement sur la roche mère, c'est-à-dire il n'y a pas de niveau en dessous. Ce mur est assez important, donc il se poursuit probablement entre l'area A et l'area B, et donc d'une profondeur assez importante. Le problème, évidemment, c'est que ces murs n'est pas préservé comme on voudrait, parce que le mur, il était reconstruit, on a utilisé les anciennes pierres à l'époque hellénistique, etc. Donc ça rend les choses un peu complexes. Pour l'area C, par contre, là, on a pu trouver assez facilement 4 niveaux d'occupation, tous de l'époque de fer, qui pourraient indiquer, mais c'est peut-être un peu trop tôt encore pour le dire, sorte d'activité commerciale de style tannerie ou établissement de teinture, peut-être. On a trouvé un poignard aussi. C'est là où on a trouvé ces petits objets que je vous ai montrés tout à l'heure. Quelques ostracas, mais qui sont très, très effacés, donc qui sont encore en analyse. On espère qu'il y a quelque chose qui est dessus. Mais comme je vous ai dit, là, on est clair qu'on a là des niveaux du fer, disons du premier millénaire. Maintenant, pour le mur, c'est très compliqué, et je ne vais pas vous ennuyer avec des cours maintenant de chimie et de physique. Quand vous voyez ça, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, moi non plus. Donc, ça s'appelle « Optical Stimulated Luminescence Dating ». Donc ça, en effet, on peut, avec une méthode, donc il faut creuser sur le terrain, et on peut en effet tester pendant combien de temps des minéraux ont été exposés au soleil, donc par l'analyse d'une sorte de rayonnement donc ionisant. Et puis bon, évidemment c'est pas très précis, mais ça permet quand même, si vous voulez, de distinguer quelques grandes époques. Et selon le résultat de cette analyse, il est assez vraisemblable que ce mur aurait été construit pour la première fois entre 900 et 700, ce qui est quand même déjà un bon résultat. Donc du coup, on a grosso modo deux alternatives. Qui a pu construire ce mur? Et donc évidemment aussi le podium entouré par, tenu par ce mur. Construction parallèle en Édom, en Jordanie, à Boussera. Ça, c'est probablement assyrien. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est les Assyriens qui probablement aussi ont construit Ramat Rachel qui sont responsables de cela? Mais c'est peut-être un peu tard. Et puis aussi, il n'y a pas vraiment dans les textes assyriens d'allusion à ça. L'autre possibilité, c'est que je vous ai déjà dit que ce plateforme ressemble quand même beaucoup à des constructions ou à des sites du Nord. Par exemple, si vous prenez ici Samarie, si vous comparez Samarie avec Kiryat Yearim, c'est assez proche, d'une certaine manière. Donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une construction du Nord? D'autant plus qu'on a trouvé des pierres de taille, non pas dans le site, mais des pierres de taille qui sont en effet taillées des quatre parties, ce qui est plutôt rare dans le Sud, mais qui est fréquent dans le Nord. Donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est un moment où un roi du Nord a en fait occupé Benjamin et fait de Benjamin en fait une partie du royaume du Nord, d'Israël. Et on apprend en effet que dans 2 rois 14, Joas aurait en effet contrôlé toute la région, puis on parle de Beth-Shemesh qui est juste à côté, mais Joas est un peu tôt. C'est donc peut-être plutôt Jéroboam II, qui aura quand même régné 40 ans et qui, selon la plupart des spécialistes, le royaume du Nord a eu son extension maximale. C'est un de ces rois maudits dont la Bible parle peu, mais c'est possible en effet que la colline de Kiriath Yearim soit en effet l'œuvre de Jéroboam pour peut-être faire quelque chose de similaire que les Assyriens avaient fait avec Ramarachel, sorte de cendre administrative ou une sorte de sanctuaire frontière, ce qu'il a fait avec Bethel. Dans le livre de Amos, qui est contre justement Jéroboam, Jéroboam est critiqué aussi par rapport à Bethel, qui est appelé le sanctuaire du roi. Et donc peut-être Kiriath Yearim avait donc une fonction similaire. Alors la thèse que certains ont trouvée de nouveau très spéculative, et c'est vrai, c'est spéculatif, il faut la tester, c'est que l'histoire primitive de l'Arche, qu'on a analysée jusqu'à maintenant, en fait, aurait été écrite par des scribes de Jéroboam pour légitimer l'installation de l'Arche à Kiriath Yearim et pour même, d'une certaine manière, la construction de Kiriath Yearim. Mais évidemment, je vous dis, ça reste assez spéculatif. Ce qui est moins spéculatif, c'est la suite de l'histoire du lieu, parce que d'abord, on peut montrer que les fouilles dans le secteur C que je vous ai montré n'indiquent aucune trace de destruction. Ça veut dire au moment où Jérusalem a été détruite, et Jérusalem, c'est à 8 km, où Jérusalem a été détruite par les Babyloniens, les montagnes n'ont pas été touchées. Il n'y a pas de destruction. Donc l'idée que tout le peuple a été déporté, que tout était vide, ne correspond pas à la réalité. Mais ça montre aussi pourquoi le site est montré après comme un site où les gens peuvent s'installer quand ils reviennent de l'exil. Il y a au niveau des murs des traces très clairement de reconstruction à l'époque hellénistique, peut-être sous les Séleucides, parce que dans le livre de Maccabée, on mentionne les travaux d'un général séleucide, Pacidèse, avec également aussi des mentions de remparts. Donc ça pourrait aller. Et après, c'est très clair, il y a à l'intérieur de l'église, que je vous ai montré, des inscriptions romaines qui montrent que c'était en fait un camp romain et on fait allusion à la présence de la 10e légion à cet endroit. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la première saison des fouilles a quand même fourni des indications pour l'importance de ce site. Il y a des gens qui pensent qu'il ne faudrait pas trop mêler les recherches bibliques avec les recherches archéologiques, mais moi je pense au contraire, il faut les mêler. Donc je pense que ce que l'archéologie peut montrer, d'une certaine manière, l'analyse du récit biblique de l'Arche peut en effet résonner par rapport à cela. Donc ce n'est pas du tout dans le sens d'un concordisme, bien au-delà, vous avez compris la démarche, donc ce n'est pas du tout pour dire que ce qui se passait dans l'histoire de l'Arche, c'est des événements historiques, mais plutôt de trouver un contexte socio-historique pour expliquer pourquoi on raconte des choses de cette manière-là. Et donc du coup, ça veut dire aussi que le transport de l'Arche à Jérusalem n'a rien à voir avec ce contexte-là et qui ne fait pas partie de l'histoire ancienne de l'Arche, mais est en effet un ajout peut-être, de nouveau à tester, un ajout de l'époque du roi Josias. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vous ai déjà évoqué cette hypothèse que ce n'est peut-être pas David sur le plan historique qui a fait déplacer l'Arche à Jérusalem, mais que c'est quelque chose qui s'est plutôt passé à l'époque du roi Josias. Cet ajout est déjà préparé par le verset 2 qu'on a rajouté à 7.1. Donc 7.1, nous l'avons vu tout à l'heure, 1 Samuel 7.1, c'est la fin, la conclusion originelle de l'histoire de l'Arche, avec la consécration d'Éléazar. Et puis après, on a, depuis le jour où de l'installation de l'Arche, où l'Arche a habité à Kiryat Yearim, il s'était écoulé des jours, 20 ans, lorsque toute la maison d'Israël se mit à gémir après Yahvé. Pourquoi se met à gémir? C'est un verbe rare. On peut imaginer que ça a été choisi pour introduire toutes sortes de contextes d'oppression militaire, de conflits militaires pour lesquels, en fait, on aura besoin de l'Arche. Donc, pour aussi préparer les différents lieux que je vous ai montrés à la deuxième leçon, où on mentionne l'Arche, mais où on peut montrer, en effet, que ce sont des lieux, disons, des versets ajoutés après coup. Donc, le récit de 2 Samuel 6 fait un certain, comment dire, un certain aboutissement de cette nouvelle série de mentions de l'Arche, mais qui va continuer jusqu'à 1 roi 8, jusqu'à l'installation de l'Arche dans le temple par Salomon. Donc ce récit a trois parties qui ne sont pas tout à fait identiques. D'abord, c'est un récit sur la dangerosité de l'Arche, je vais vous le traduire tout de suite. Ensuite, une sorte de procession avec le David dansant devant l'Arche, et finalement, une sorte de critique de la femme de David, Michal, qui, en critiquant leur mari, va être frappée de stérilité. Les trois parties sont reliées entre eux parce qu'au verset 5, on mentionne déjà la musique, on sait déjà le mécontentement de Michal, mais qui certainement n'a rien à voir avec l'histoire de l'Arche, qui est plutôt liée à l'histoire de l'ascension de David, dont je vous ai parlé aussi brièvement. Alors, les premiers deux parties sont contrastées. Dans la première partie, l'Arche est un objet très dangereux, hein, alors que ensuite, un objet liturgique. David, dans la première partie, réagit de manière au moins ambiguë, alors que dans la deuxième, il est présenté de manière très positive. Donc, est-ce que les deux parties ont été reliées dès le début ou est-ce qu'ils ont des contextes différents? Alors, on a une petite musique de fond. Alors, je vais vous lire les versets 1 à 12. David rassembla encore toute la troupe d'élite en Israël, 30 000, 70 à même 70 000. David se leva à Ala ainsi que toute la troupe qui était avec lui à Baala, donc maintenant on sait ce que c'est, ce qui est Kiryat Yearim, appartenant à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué le nom de Yahvé Tsevaot qui siège sur les chérubins. Je vous ai déjà parlé de ce nom. Ils transportèrent l'arche de Dieu ou de Yahvé sur un chariot neuf et l'emportaient de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline. Uzza et Ahio, les fils d'Avinadav, conduisaient le chariot. Ils l'emportèrent de la maison d'Avinadav qui se trouve sur la colline avec l'arche de Dieu et Ahio marchait devant l'arche. Quant à David et toute la maison d'Israël se réjouirent devant Yahvé de toute leur force avec des instruments sous-entendus de bois de cypress, avec des chants, des lyres, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Donc il y a tout un orchestre. Il vint à l'ère de Nachon, Uzia étendit la main vers l'arche de Dieu, il la saisit. En effet, les bœufs avaient glissé. La colère de Yahvé s'enflamma contre Uzza et la divinité le frappa là-bas à cause de l'insolence et il mourut là près de l'arche de Dieu. David s'échauffa. Alors la septante corrige, David perd du courage parce que s'échauffer, c'est plutôt être mécontent parce que Yahvé avait opéré une brèche vis-à-vis d'Uzza et l'appelait le lieu Peretz Uzza et jusqu'à ce jour. Et David craignit Yahvé en ce jour et dit, comment l'arche de Dieu, l'arche de Yahvé viendra-t-elle vers moi ? Et David ne voulait pas transférer vers l'arche de Yahvé, vers la ville de David. Il la détourna dans la maison d'Obed-Edom, le Gittite ou le Gathite, celui de la ville de Gath. Et l'arche de Yahvé demeura dans la maison d'Obed-Edom, le Gittite, 3 mois, et Yahvé bénit Obed-Edom et toute sa maison. On informa le roi, Yahvé a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Edom dans la ville de David, dans la joie. Donc, David rassemble encore toute la troupe d'élite. Encore, c'est un peu curieux dans ce récit, on ne sait pas très bien à quoi ça fait allusion, peut-être à un certain nombre des victoires de David relatées au chapitre précédent. Les 30 000, on a déjà vu, c'est en effet un chiffre conventionnel, et c'est surtout la reprise de 1 Samuel 4. Souvenez-vous, en 1 Samuel 4, il y avait 30 000 qui auraient été frappés, tués par les Philistins, et là, maintenant, David revient, en fait, avec 30 000 pour chercher l'arche. Donc, ça montre que l'auteur de 2 Samuel 6, évidemment, il connaît l'ancienne histoire de l'arche, qu'il a peut-être aussi révisée, restructurée, et donc, d'une certaine manière, maintenant, pour faire une sorte de miroir, David revient avec les 30 000. Le fait qu'on insiste sur Kiryat Yearim qui est en Juda, ça peut très bien aussi s'expliquer dans le contexte de Josias, parce que très probablement, le roi Josias a réussi à récupérer en fait le territoire de Benjamin et donc l'a incorporé dans le royaume de Juda. Maintenant, ce qu'on constate, que ce n'est pas les mêmes noms. Donc le chariot neuf, évidemment, ça fait allusion au même chariot que le Philistin avait aussi, ça doit être neuf, ça ne doit pas être contaminé. La maison d'Abinadab rappelle 1 Samuel 7. Par contre, maintenant, on n'a plus Éléazar, on a Uzza et Ahio. 2 autres noms, apparemment. Est-ce que le fait qu'en 1 Samuel 7, 2, on dit que l'arche a séjourné 20 ans à Kiryat Yearim, est-ce que c'est une manière de dire, voilà, 20 ans, souvent, ça fait une génération? Donc, est-ce que, du coup, c'est la génération suivante? Ou est-ce que, comme certains ont dit, Uzza pourrait être un autre nom pour Éléazar? A priori, on ne va pas tout de suite, mais il y a des exemples dans la Bible, parce que ces deux racines, c'est la racine Ayin Zed, la force, et c'est la racine Ayin Zed Resh, donc Ayin Zayin Resh, le secours. Il y a des noms qui alternent pour la même personne. Par exemple, il y a un musicien Uziel, donc c'est avec comme Uzza, et qui, parfois, est en effet aussi appelé Azarel, comme Éléazar et Uzia, ou encore le roi judéen Ozias, qui appelait tantôt Uzia, et parfois Azaria. Donc on pourrait imaginer peut-être que c'est un nom alternatif. Une autre théorie, c'est de dire que Ahio, c'est pas son frère, pour les Hébraïsons, ça pourrait être, si on enlève le yod. C'est pas un nom propre, ça pourrait, si on enlève le yod, ça pourrait être son frère simplement. Donc du coup, on aurait quelque chose comme Uzza et son frère, c'est-à-dire Éléazar. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne le mentionne pas? La Septante l'a compris comme ça, parce qu'elle traduisait frère. Il y a eu même la thèse que la famille sacerdotale de Abinadab aurait été la famille descendante de Sadoc, des Sadocides, hein, parce qu'on ne sait pas dans la Bible quelle est l'origine des Sadocides. Je ne savais pas. Donc, du coup, il dit, on veut de manière cryptique désigner le frère, à savoir Sadoc. Mais bon, ça reste quand même spéculatif. Puisque le nom Ahio, qui veut dire Yahvé est mon frère aîné, mon protégé, protecteur, pardon. Comme c'est aussi attesté pour d'autres personnages, je pense qu'on peut le garder plutôt comme un nom propre. Donc, je pense qu'il faut plutôt y penser à deux noms différents, peut-être avec l'idée que voilà, les générations ont changé. Donc après, on va de manière très détaillée présenter tout l'orchestre. Alors, est-ce que ça rappelle vraiment l'existence d'orchestre dans le premier et deuxième temple? Ce n'est pas impossible, difficile à savoir. Et après, on arrive à cet incident qui, évidemment, est en miroir à l'histoire de Beth Shemesh, n'est-ce pas? À Beth Shemesh, il y avait aussi des gens qui ont été frappés à cause d'un comportement pas adéquat. Ici, ça se passe à l'ère de Nachon. Alors, l'ère de Nachon, inconnue, sauf si c'est peut-être un nom... on a voulu l'identifier avec cette ère où David a trouvé le temple, mais c'est probablement un nom inventé avec la racine Nacha, frappé, parce qu'après, il y avait frappé, donc on ne savait pas où c'est, donc on l'a mis à l'ère du coup, à l'air de la frappe. Donc c'est probablement un nom symbolique. Le pauvre Uzza qui veut simplement empêcher l'arche de tomber, il meurt. Pas de chance. C'est un peu la même chose de ce qui arrive aux deux fils de Aaron, Nadav et Abihu, qui pensent de bien faire en offrant un sacrifice, mais qui n'est pas tout à fait un sacrifice dans les règles, ils sont également frappés de mort. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas approcher Yahvé n'importe comment. Donc du coup, Yahvé s'échauffe, Chara, c'est la même racine que la colère de Yahvé, donc Yahvé est en colère et ça provoque la colère aussi de David. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, David ici est un peu... un peu ambigu, et de nouveau, on va trouver une étiologie, Peretz Uzza, la brèche de Uzza. De nouveau, le lieu est inconnu. Si un tel lieu existe, on pourra expliquer pourquoi un des prêtres s'appelle Uzza, parce qu'il fallait expliquer ce nom de Peretz Uzza, donc on va inventer un dénommé Uzza qui va mourir là, et donc on peut expliquer le nom du lieu. C'est peut-être l'explication la plus simple. Parfois, il faut faire simple, même si on peut faire compliqué. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que Peretz, vous l'avez dans le chapitre précédent, où David, en fait, va battre les Philistins à Baal Peretzim. Et ce qui est très intéressant, mais ça, on n'a pas le temps maintenant, c'est que les Philistins abandonnent là leurs idoles, et David les prie. C'est presque une contre-histoire à l'histoire de l'Arche. Parce qu'en 1 Samuel 4, c'est les Philistins qui battent les Israélites et qui prennent leurs idoles, c'est-à-dire l'Arche de Yahvé. Et puis, juste avant ce chapitre, David fait la même chose. C'est peut-être quand même aussi une résonance avec 1 Samuel 4. Ce n'est pas impossible. Mais bon, on n'a pas le temps, malheureusement, maintenant de parler de cela. Disons simplement encore que l'arche est chez Obed-Edom, ça c'est aussi très intéressant. D'abord, petite analyse diachronique, verset 9 en rouge, si vous le regardez, maintenant, après ces quelques séances, vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une insertion. Parce que vous pouvez passer très vite très bien, du 8 au 10, et puis c'est une certaine manière, correction de David, là David se met en colère au verset 8, là il faut dire, ah non, il ne se met pas en colère, il craignait le Seigneur, ce qui est autre chose. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que l'arche maintenant va se trouver dans la maison d'un Obed-Edom qui est caractérisé de Gathite, d'origine de Gath, une des villes des Philistins mentionnées où l'arche était entreposée, où l'arche avait fait des misères. David lui-même va séjourner à Gath, puis après on a encore un autre Gathite, Ittai. Donc il y a un lien apparemment assez fort. Mais ici, je pense, de nouveau, c'est un peu une sorte de clin d'œil ironique à la première histoire de l'Arche, n'est-ce pas ? Parce que maintenant, l'Arche va rester aussi chez quelqu'un de Gath, mais avec justement le résultat contraire, c'est-à-dire il va y apporter la bénédiction. Et ce Gathite va s'appeler Obed-Edom, ce qui est assez curieux aussi, Obed-Edom. Certains ont dit Edom ici, il faut le comprendre comme le nom d'une divinité, Udum, qui est deux fois attestée comme la femme du dieu Refesh, du dieu de la peste, mais c'est quand même des attestations un peu pauvres. Donc je pense qu'il faut plutôt penser comme Knauf que Obed-Edom est une sorte de forme brève de Obed, Kaos, Kos, El-Edom, donc serviteur de Kaos qui est le dieu de Edom. Donc ça fait long, du coup ça devient Obed-Edom. Donc vous savez, ça c'est une tendance universelle de raccourcir les noms. Mais ça présuppose le royaume d'Édom, qui n'existe pas avant le 8e siècle, ce qui permet déjà de dater notre texte. Ça présuppose sans doute aussi des liens entre des cités philistines du sud et Édom. Et là, nous sommes au 7e, 6e siècle, qui va très bien si ce texte a été composé à l'époque de Josias. Après, on a naturalisé ce Obed-Edom, on a fait un lévite, un chanteur ou un portier dans le livre des chroniques, parce que c'était sans doute considéré comme gênant qu'un philistin peut accueillir l'arche, encore une fois, et être en effet, du coup, bénéficiaire de toutes sortes de bénédictions. Donc, où est-ce que ça se trouve, cette maison de Obed-Edom, si ce n'est pas une pure spéculation? Nadav Naaman a pensé que, en fait, Obed-Edom, c'est Tel Motsa. Alors, Tel Motsa, de nouveau, si on avait beaucoup le temps, c'est magnifique. C'est lors de la construction, l'agrandissement de l'autoroute. Donc, on doit faire des fouilles préventives tout le temps. Et on a trouvé un magnifique temple du 9e, 8e siècle, qui est vraiment à côté de Kiryat Yearim. Donc, l'autoroute qui passe à côté de Kiryat Yearim, vous sortez, maintenant, le site est de nouveau couvert. Mais bon, il y a des photos, etc. Il y a quelques négociations si on peut l'ouvrir ou non, mais évidemment, il y a les intérêts économiques, capitalistes et la science, et souvent ça ne va pas très bien ensemble. Mais c'est en effet un site magnifique. On a trouvé des choses, des figurines, toutes sortes de choses. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a pu construire cette autoroute, mais bon. Et comme c'est à côté de Kiryat Yearim, Nadav Naaman pense en effet que ça pouvait être la maison de Obed-Edom. C'est vrai que c'est un site occupé durant l'âge de fer, mais il n'y a pas vraiment de lien linguistique entre Obed-Edom et Motsa, alors que dans Josué 18, il y a en effet Motsa. Donc c'est difficile cette identification. Est-ce que c'est une identification voulue? C'est difficile. Les textes, surtout, insistent sur le bienfait, comme s'il y a une sorte de charme de fécondité de l'arche, comme le dit Caco et de Robert, qui va convaincre, finalement, David de chercher l'arche. Donc, il va la chercher avec des chants, la musique, des sacrifices. Il va bénir le peuple. Maintenant, c'est David qui va jouer le rôle sacerdotal, un peu comme Salomon. Lorsqu'il inaugure le temple, c'est un peu la même chose. Donc, ils vont, en effet, se comporter de la même manière. Il y a donc les sacrifices et la bénédiction. Donc, on ne parle plus des prêtres, c'est David qui va tout faire. Et après, il y a encore cette histoire de la danse de David devant l'arche qui va, en effet, introduire l'histoire de Michal. Donc cette danse, elle est très compliquée. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il fait un peu allusion ou reprend une histoire où Saül fait la même chose, où Saül aussi tombe en extase. Hein, en 1 Samuel 19, l'esprit de Dieu s'empare de Saül, il tombe en extase, il se dénude et reste ainsi toute la journée. Voilà pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Donc c'est sans doute un signe d'extase, de légitimation. Et David, il porte que l'éphod, donc symbole des prêtres, donc peut-être aussi on veut le rapprocher de la médiation sacerdotale. Donc que les prêtres soient nus, c'est assez, assez courant dans le Proche-Orient ancien, c'est seulement après les textes du milieu sacerdotal qui commencent en fait à exiger que les prêtres portent des sortes de caleçons pour qu'on ne voit pas leurs organes génitaux lorsqu'ils montent les escaliers, etc. Mais c'est exactement ça, après ce que Michal va reprocher à David, en lui disant que voilà, il s'est dénudé devant des serviteurs et des servantes surtout, et donc c'est une histoire qui se termine avec la note que Michal, la fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec cela? C'est la séparation définitive entre la lignée de Saül et la lignée de David. Si Saül aura eu des enfants via Michal, il y aura eu toujours un lien entre la maison de Saül et la maison de David. Mais là, on va dire que justement, Michal, la femme qui vient donc de la famille de Saül, reste stérile, et donc le lien entre Saül et David est donc définitivement rompu. Donc, résumons ce cours en 6 points. Et un 7e après. Alors, le premier, c'est que la tradition la plus ancienne sur l'arche se trouve dans ce récit primitif qui se trouve dans les chapitres 4, 5, 6 et le verset 1 du chapitre 7 du premier livre de Samuel. L'arche était un sanctuaire transportable, surtout utilisé dans des conflits militaires. À l'intérieur, une représentation de Yahvé en forme de pierre, en forme de statuette, difficile de savoir. La première version de l'arche a été rédigée par des scribes de Jéroboam II, qui a fait du site de Kiriat Yearim un sanctuaire pour l'arche après la destruction, non pas de Jérusalem, non, ça j'étais fatigué, après la destruction de Shiloh, bien sûr. Kiriat Yearim fait alors partie de Benjamin et du royaume du Nord. Sur le plan historique, ce n'est pas David, mais Josias, qui a fait venir l'arche à Jérusalem, maintenant oui, c'est Jérusalem, dans le cadre de la centralisation du culte. Et ce sont les scribes de Josias qui ont rédigé le récit du transfert de l'arche à Jérusalem en 2 Samuel 6 et qui ont également révisé l'ancien récit de l'arche. Après la destruction du temple, ça nous l'avons déjà vu, l'arche disparaît. Elle disparaît, mais elle laisse la place ouverte, du coup, à beaucoup de spéculations sur ce qu'elle est devenue. Nous avons vu les récits éthiopiens, nous avons vu que peut-être Jérémie l'aura cachée quelque part. Donc il y a beaucoup de choses. Et une des dernières choses que vous connaissez peut-être, si ça marche... Voilà, ça c'est Indiana Jones. Indiana Jones où on va aussi ouvrir l'arche et ça va se passer aussi mal que pour les gens de Bet-Shemesh et que pour Uza. Donc d'abord, il va rien... Bon, vous connaissez l'histoire, moi je vais vous raconter l'histoire. Les méchants nazis là, qui ont capturé l'arche. Et donc, mais ce qui est intéressant après, quand vous regardez... C'est que bah d'abord, là, ce faux prêtre, là, il va ouvrir l'arche. Vous allez voir, de bus passe rien. Il est déçu parce que il ne va rien y trouver à l'origine, mais attention, il n'y a que du sable. Mais ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. L'arche, elle va agir sous peu. Vous voyez, l'électricité. Je vous ai parlé des théories sur l'arche et l'électricité. Et voilà que l'arche va en effet se manifester de cette manière. Après, il y a toutes sortes de fantômes, mais ça, je vous laisse regarder. Donc, je voulais juste vous dire qu'il y aura encore quelques activités au mois de mai. D'abord, le colloque sur le thème du sang à la fin du mai, sauf erreur le 29 et le 30. Et il y a aussi une conférence le 16 mai, à mercredi, à 11h, sur les fondements, ça vous connaissez peut-être pas encore, les fondements métallurgiques du yavisme israélite. Donc il y avait un dieu de métallurgie. Voilà, ça nous vient de Beersheba, d'un monsieur Nissim Amzalak. Ceux qui sont inscrits sur la liste de diffusion, ben, vous allez avoir toutes les informations. Autrement, vous les aurez évidemment aussi via les affiches, bien sûr. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et à l'année prochaine.